Radio Barque, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Barque, bonjour, c'est le 30e de notre 9e saison. Nous recevons aujourd'hui Éric Andrieux, bonjour.
Bonjour.
Monsieur le député européen, pour quelques jours encore, et ça va être évidemment le sujet de cette émission. Merci d'être venu nous confier à la fois l'expérience de nombreuses années et puis ce processus de démission, ce choix, comment les choses vont s'articuler. Comme c'est le cas aussi habituellement dans cette émission Radio Barque, on parlera dans une deuxième partie un petit peu plus alors de l'Europe au sens très large. On débordera peut-être d'ailleurs vos fonctions de député européen. Et dans une troisième partie un peu plus personnelle, ce que vous pensez, mais aussi votre engagement militant socialiste de longue date. Et ça peut intéresser les auditeurs de savoir ce que vous avez vécu il y a 30 ans et comment vous voyez les choses aujourd'hui. Alors, Éric Andrieux, vous êtes député européen. Rappelez en quelques mots d'abord comment les choses se passent. On est élu dans une élection européenne, comme il y en aura une l'an prochain, à la proportionnelle, dans un système qui est un peu différent des autres. Mais en deux mots, comment ça se passe ?
Alors en deux mots, nous allons essayer de réussir cet exercice. Déjà, donc le Parlement européen rassemble 705 députés européens issus de 27 États membres. Et pour ce qui est de la France, nous sommes 79 députés français. On est élu sur une liste depuis 2019, une liste nationale. Chaque parti présente une liste de 79 noms, 79 personnes. Et c'est un suffrage à la proportionnelle intégrale, à un tour. Donc les élections auront lieu l'an prochain, le 9 juin 2024. Et en fonction du nombre de pourcentage obtenu, on a un nombre d'élus.
Voilà.
Donc voilà, et qui compose évidemment les 79 députés français qui représentent la France au Parlement européen.
Voilà, et ce nombre-là ne bougera pas, par exemple, quand vous allez démissionner.
Non, puisque effectivement, le principe est le suivant. Donc moi, je vais quitter le Parlement le 2 juin à 0h01, voilà. Et c'est le suivant de liste, en fait, qui va prendre ma place. Il n'y aura pas de nouvelle élection, puisque c'est le principe est ainsi établi. C'est le suivant de liste qui va accéder au Parlement européen et me succéder.
Oui, alors on va revenir là-dessus. Je précise quand même que, alors l'Europe, bon, on y reviendra aussi, Éric Andrieux, il y a du pour, il y a du contre, il y a sans doute des échecs, il y a des grands succès également, mais on va y revenir. Mais on reproche très souvent à l'Europe d'être une institution technocratique, en tout cas pas assez démocratique. Et remarquons au passage que vous, les élus, les députés européens, vous êtes les seuls qui êtes élus en tant que tels par le peuple.
Tout à fait. Il y a trois instances majeures à l'Union. Le Conseil européen qui rassemble les chefs d'État et les gouvernements.
Mais qui sont chefs d'État, pas élus par rapport à l'Europe.
Je vais faire une parabole française. Lorsqu'aujourd'hui en France on élit un maire, par exemple, on sait... Et à l'évidence aujourd'hui, qui va être siégé à l'intercommunalité. Et en France, lorsqu'on élit un président de la République, on sait qu'il va siéger au Conseil européen.
On peut tenir compte, entre autres, de ses positions sur l'Europe. Mais entre autres.
Bien sûr.
Tandis que vous, on vous a élu comme député européen, pour le Parlement européen.
Tout à fait, avec une évolution, parce que l'Europe, je dis souvent ça, c'est un nain politique. Si l'on prend l'Europe, n'a que 70 ans d'âge, voilà, c'est un bon armagnac.
D'une part, oui, et puis de par ceux dont elle s'occupe, elle s'occupe de commerce essentiellement, mais on parle parfois d'Europe de la défense, bon, on y reviendra peut-être, Éric Andrieux, mais pour le moment, c'est plus une vision, une vue de l'esprit qu'une réalité.
L'Europe s'occupe plus que du commerce, parce qu'on a 20 commissions de travail, on légifère sur tous les domaines sociétaux. C'est les droits humains, c'est l'environnement, c'est l'agriculture, c'est la sécurité et la défense, les affaires étrangères, c'est le marché intérieur, c'est le commerce international, effectivement, avec des champs de compétences qui ont été, des responsabilités, je vais essayer d'employer des termes faciles, qui ont été confiés par les États. Et effectivement, au-delà du Conseil européen qui rassemble les chefs d'État, il y a le Conseil de l'Union européenne qui rassemble les ministres de chacun des 27. Si nous travaillons, par exemple, sur une loi qui a trait à la santé, ça va réunir les 27 ministres de la santé. Et en fait, on co-légifère, évidemment. Si on fait la PAC, la politique agricole commune, elle a été travaillée par les 27 ministres de l'agriculture.
Et donc, c'est ça qui s'appelle le Conseil
Ça, c'est le Conseil de l'Union européenne.
De l'Union européenne.
Voilà. Il y a deux, c'est pour ça que c'est important de le préciser. Conseil européen, c'est les chefs d'État et de gouvernement. Et les conseils de l'Union européenne, ce sont les ministres concernés par les secteurs. Et c'est eux qui vont faire le travail sur la loi. Et en fait, on co-légifère. Ça, il y a le Parlement, les députés, qui ont beaucoup de pouvoir aujourd'hui, depuis le traité de Lisbonne en particulier, mais déjà avant, mais en particulier depuis le traité de Lisbonne. Et en fait, on est deux. On fait la loi à deux. Alors vous dites que c'est très technocratique, certes, c'est la pensée qu'on peut avoir de l'extérieur, mais c'est quand même le politique qui fait la loi. Et la Commission européenne, qui est une commission d'experts, il y a 27 commissaires nommés par les États membres avec leurs services, avec leur administration, leurs experts, ils sont là pour accompagner le processus. Ils ont ce qu'on appelle le pouvoir d'initiative, je ne vais pas aller dans le détail, ils exécutent les lois votées par les deux assemblées, c'est-à-dire le Conseil des ministres et les parlementaires.
Oui, or on a l'impression que ces commissaires, c'est eux qui font la pluie et le beau temps.
Ben parce qu'en fait, ce sont eux souvent qui exécutent. C'est comme, comme le Conseil des ministres. Oui. Non, mais ils exécutent la loi votée par les élus. C'est-à-dire, ils ont le pouvoir, on dit d'initiative, schématiquement, je vais faire une petite parabole, on va dire que les conseils, le Conseil comment dire, européen, les chefs d'État et de gouvernement vont impulser des directions. Voilà, je sais pas, un cours de droit et loin de là. C'est la Commission européenne qui va traduire ces impulsions dans un projet de texte législatif. Ce projet de texte va arriver au Parlement et au sein du collège des ministres concernés. Nous allons, par voie d'amendement, modifier ce projet de texte-là, qui va devenir projet de loi, qui sera voté par les deux assemblées, les ministres et le Parlement. Et ensuite, c'est la Commission européenne qui va exécuter. Voilà. Je schématise parce qu'il y a les droits plus complexes, mais c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne.
Oui. Et alors, ces commissaires, c'est peut-être ça qui renforce cette impression de technocratie. Ils sont nommés, ils ne sont pas élus.
Exactement. Chaque État membre nomme, c'est un sujet d'ailleurs en soi, un commissaire qui va avoir un portefeuille. On va avoir le commissaire au commerce extérieur, le commissaire à la santé. Et en gros, ça recoupe les 20 commissions administratives dans lesquelles nous siégeons au sein du Parlement européen.
Avec une présidente.
Voilà, alors il y a trois présidents, évidemment, il y a le président du Conseil européen, donc aujourd'hui c'est Monsieur Charles Michel qui préside le Conseil des chefs d'État et de gouvernement pendant la durée du mandat, les 5 ans. Ensuite, il y a une présidence du Conseil de l'Union européenne qui, elle, change tous les 6 mois. Tous les 6 mois, c'est un État membre qui préside l'organisation donc du fait législatif.
Ça passe médiatiquement un peu inaperçu.
Tout à fait. Tout à fait. Mais alors ça c'est un sujet en soi aussi, hein, parce que l'Union elle se construit, hein, je le dis, elle chemine. Et ensuite, il y a le président de la Commission européenne, qui en l'occurrence est une présidente aujourd'hui, Madame
von
der Leyen.
Qui elle est beaucoup plus médiatiquement connue et reconnue.
Oui, parce que elle exécute, hein, celle qui est toujours sur le devant de la scène, puisque elle propose aussi, elle a ce pouvoir d'initiative, et ensuite elle exécute. Donc elle est dans l'élément de régulation, et nous travaillons évidemment de concert avec la Commission européenne. Et il y a un président du Parlement européen, qui là aussi est une présidente, hein, Madame Roberta Metsola, donc voilà, qui est une Maltaise, avec qui aussi nous travaillons bien sûr au quotidien.
Oui, oui, oui. Alors à propos de l'Europe, il y a quelques mois, il s'est passé des choses pas très très flatteuses à ce niveau-là, puisque il y a eu, paraît-il, de la corruption, avec un ou des députés qui ont même été arrêtés et incarcérés, je crois.
Oui, alors il y a une députée essentiellement qui, oui, le problème de malversation, hein, donc c'est le problème de la relation au lobby là encore, hein, donc c'était très grave effectivement, puis il y a beaucoup d'argent en jeu, en particulier de liens avec le Qatar, de liens avec le Maroc, donc pour ne pas les citer, mais pas que, et effectivement, bon, c'est difficile de chacun vit en conscience, il y a beaucoup de règles, on est soumis à nombre de règles donc très strictes, mais l'être humain étant ce qu'il est, certains ou certaines essaie dans un intérêt personnel d'échapper aux règles, ce qui s'est produit. Alors après, on pourrait entendre le détail, parce que la justice belge donc a eu des comportements pas forcément équivalents en fonction des personnes considérées. Mais bon, mais effectivement, enfin, ça nous a impacté beaucoup.
Il y a bien
beaucoup,
eu corruption avérée.
Tout à fait, corruption avérée. Alors, il y a la présomption d'innocence aujourd'hui.
Oui,
donc,
bien sûr.
Mais il y a effectivement, donc là, des acteurs ont été libérés, mais ils ont été donc emprisonnés. La justice belge a fait un travail. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Hein. Mais en tous les cas, oui, le fait est que c'est pas acceptable. Donc, nous sommes en train aujourd'hui de renforcer les règles de contrôle au sein même du Parlement. Toujours, hein, je le redis, on chemine vers la convergence européenne. Et c'est un long travail, hein, parce que faire converger 27 États, 27 histoires, 27 droits vers un droit commun, finalement, à l'échelle continentale, ça se fait pas en un jour. On ne peut pas le décréter.
Oui, mais
les textes lettoniens ou estoniens avaient des textes de droit français ou portugais.
C'est sûr,
chemine vers cette vision-là.
Il faut arriver à ce que la mayonnaise prenne. Mais là, dans cette affaire, justement, de corruption, le point faible, c'est là où la prise est possible, c'est le lobbying.
Exactement.
Groupe de pression.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, on a un acteur qui est un ancien député, Antonio Panzeri, pour ne pas le nommer, un député italien, qui n'a pas été élu lors du dernier mandat, qui a créé une association et qui a fait du lobby, qui a fait entrer des lobbies. Parce qu'en fait, c'était au moment de la Coupe du Monde, donc au Qatar, donc où il fallait redorer l'image du Qatar. Il a négocié des prises de parole, il a négocié des positionnements de certains élus pour amoindrir donc le jugement des Occidentaux sur le Qatar. Donc il a fait un travail d'intermédiaire plutôt entre les élus européens et les responsables de Qatari. Et oui, il y avait pour cette mission-là beaucoup d'argent en jeu. Donc ce qui est en train de se produire. À titre d'exemple, très concrètement, moi je vais arrêter le 2 juin pendant un an, je crois que c'est ça, ou 6 mois précisément, dans un premier temps, je peux pas effectuer des actions de lien avec le Parlement européen. Je suis totalement
incompatibilité.
Voilà. Tout à fait. Donc ça se précise. Hein. Après, on doit, lorsqu'on rencontre des lobbyistes, on doit inscrire leur nom, quel qu'il soit d'ailleurs, donc sur un registre spécial. Ça, c'est contrôlé par l'administration. Donc les choses, c'est pas acceptable. Évidemment, c'est pas acceptable. C'est le moins
que je puisse dire. Mais c'est une faiblesse finalement de l'Europe là.
Alors, ça, c'est la question des lobbies.
Est-ce que vous le percevez comme ça?
Non. Alors oui, là, dans les faits, oui, en termes de droit, oui, il y a un problème de régulation, mais j'ai envie de dire, chacun vit avec sa conscience.
Hein. Oui.
Mais dans les lobbies...
Ça ne veut pas dire que tous les députés européens...
Non, c'est ça, il faut éviter cet amalgame-là, parce qu'on est 705, beaucoup travaillent, et quelques-uns, comme dans la société, donc, hein, profitent de la situation et trichent. Voilà, et les tricheurs doivent être sanctionnés, sans ambiguïté, quelle soit leur partie d'appartenance ou autre, et c'est le cas aujourd'hui, je pense qu'il faut que la justice se fasse et qu'effectivement ces gens-là qui ont triché soient sanctionnés comme il se doit.
Alors un tout dernier mot avant la première pause, Éric Andrieux. Donc vous avez décidé de démissionner, ça sera effectif le 1er juin. Quelles sont les raisons, alors pas forcément personnelles, mais peut-être politiques, qui font que vous avez fait ce choix ?
Oui, elles sont d'abord politiques, c'est-à-dire c'est un choix de respect de la démocratie. J'appartiens à cette catégorie d'élus, voilà, qui considèrent que la démocratie est en haut de la pyramide, voilà. Et je pense que le monde va vite, ça bouge vite, hein, et que la démocratie, de mon point de vue, a besoin d'énergie nouvelle et a besoin donc d'intelligence nouvelle.
Ouais, ce qu'on appelle une mise à jour.
Oui, on peut dire ça comme ça. Donc c'est un reset, si vous voulez, donc hein, voilà, un terme occitan. Mais et voilà, donc je pense que c'était important. Je l'avais annoncé dès 2019, après l'élection, au responsable de mon parti, donc qui s'appelle Olivier Faure, à qui j'avais dit, je propose d'arrêter un an avant, parce que le mandat européen est complexe, très complexe. Et je pense que c'est important de donner les clés, à un successeur.
Préparé.
Donc j'ai effectué un véritable tuilage. Aujourd'hui, donc ça fait un an et demi que nous travaillons ensemble. Il va reprendre, qui s'appelle Christophe Clergeau. Il est de Nantes. C'est un très beau...
Ce qui confirme la notion de liste nationale.
Exactement. Donc il reprend mes responsabilités au poste à poste, si vous voulez. Et depuis un an et demi, nous travaillons donc ensemble pour que cette transition se fasse dans les meilleures conditions. Il reprend mon équipe de collaborateurs. Donc voilà, et je crois qu'on est prêt maintenant pour qu'il puisse exercer cette fonction dès le 2, comme s'il avait toujours été dans les murs du Parlement européen.
Voilà, et nous sommes prêts pour une première pause. Dans une deuxième partie, Éric Andrieux, on parlera beaucoup plus de l'Europe. Alors, l'Europe avec tout ce que cela implique. Après la pause, à tout de suite.